Bonjour, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et de l'Hebdo. Et l'Hebdo aujourd'hui, comme il est en relation avec les États-Unis et étant donné le décalage horaire, eh bien c'est un Hebdo enregistré. Nous sommes avec Dan Labotte qui intervient depuis New York.
Et on est le 12 octobre.
Le jeudi 12 octobre, décidément. Alors, les États-Unis connaissent en ce moment une période de turbulence à la veille des élections qui auront lieu en 2024, pour lesquelles Biden et Trump sont déjà en campagne. D'abord, il y a eu la grève des scénaristes qui, après 5 mois de grève, ont approuvé par le biais de leur syndicat Writers Guild of America un accord salarial conclu avec les studios le 26 septembre dernier. Mais une grève en cache une autre, celle commencée le 15 septembre dans l'industrie automobile aux États-Unis, est qualifiée d'historique, à commencer par le syndicat de l'UAW qui l'organise. Pour la première fois, une grève frappe ensemble les 3 constructeurs historiques, General Motors, Ford et Chrysler, cette dernière firme appartenant à Stellantis. Et évidemment, pour finir, le samedi 7 octobre dernier, nous avons donc appris l'offensive du Hamas en Israël. Et là aussi, le gouvernement des États-Unis est également impliqué dans ces prises de position. On y reviendra à la fin de l'émission. Donc, en tout cas, pour approfondir tout cet état des lieux, nous sommes avec Dan Labotte, dont son dernier livre et son premier roman s'intitule Trotsky in Tijuana. Dan Labotte est également enseignant, chauffeur routier, historien et journaliste. Bonjour Dan.
Bonjour. Alors effectivement, les États-Unis assistent depuis ces dernières années à une augmentation des grèves depuis la révolte de l'État rouge en 2018. Alors comment la grève en cours dans l'industrie automobile? On a appris ce matin, 12 octobre, que 8000 nouveaux salariés et des camionneurs de Ford se sont additionnés à cette grève. L'OR vient de nous dire que cette grève qui a débuté déjà au début octobre, il y avait 25 000 salariés, donc il faut additionner les 8000 aujourd'hui. Comment cette grève s'inscrit dans ces contextes de lutte? Pourquoi l'OR parle d'une grève historique?
Je crois qu'il est important de savoir qu'il fait beaucoup des années que nous n'avons pas une vague de grève comme nous avons en ce moment. Et les travailleurs automotrices, ils avons perdu beaucoup dans les dernières 20 ans. Les salaires, les conditions de travail n'ont pas été actualisées pour pouvoir le pouvoir d'acheter, les nécessités de la famille des travailleurs. Et donc, nous avons une vague de grève et nous avons une grève dans l'industrie automotrice. Il y a 150 000 travailleurs dans l'industrie. À ce moment, il y a 30 000 en grève. C'est une grève intéressante, c'est une grève unique parce que le syndicat a décidé d'une grève dans toutes les 3 grandes compagnies d'auto, mais il est une grève qui s'étend, c'est une grève qui s'intensifie graduellement. La union, le syndicat utilise sa capacité de fermer une usine ou autre pour continuer la pression sur le patronat, sur la compagnie. C'est très intéressant, la stratégie. Je crois qu'elle a été effective, mais il y a maintenant plus que 3 semaines en grève. Quelques des travailleurs ont commencé au principe, et graduellement, beaucoup de travailleurs ont entré dans la grève. Mais le syndicat pense qu'il a gagné quelque chose d'important. Une des causes de la grève, en addition à la question salariale, c'est le problème de la nouvelle technologie. C'est intéressant que c'est une cause de la grève dans différentes industries, aussi entre les scénaristes et entre les acteurs. Mais dans le cas de l'industrie de l'automobile, parce qu'il y a une transition de la moteur de combustion interne à la moteur électrique. Et donc, il y a une peur qu'avec la transition, que le syndicat peut perdre le contrôle de l'industrie, que les autos vont être produits dans des autres usines. Mais ils ont gagné avec une des compagnies le droit d'organiser les fabriques qui vont faire les batteries pour les moteurs. Dit-on batterie en français?
Oui, tout à fait.
Et donc, je crois que c'est très important qu'ils ont, un des patrons, gagné le contrôle sur les usines des batteries, parce que ça va être le futur de l'industrie. Il est intéressant qu'à ce moment, je crois qu'il y a grand appui pour le syndicat, pour les travailleurs, de part de la public, de la population en général. La population en général comprend bien de leur propre expérience que le coût de le logement, des aliments, a croisé beaucoup. Il y a sympathie avec les travailleurs et admiration pour l'audace de la syndicat aussi.
Et oui, mais c'est une chose intéressante aussi, c'est la façon comment cette grève va se mettre en place et comment elle s'étend, parce que c'est considère aussi tous les concessionnaires, les sous-traitants, les transporteurs, et c'est-à-dire ça sort vraiment de l'usine de l'automobile lui-même.
Oui, je suis d'accord.
La grève a bien pris dans le secteur automobile, mais du coup, est-ce que ce mouvement de grève gagne du terrain dans d'autres secteurs d'activité que le secteur automobile?
Non, je crois que dans les États-Unis, nous avons expérimenté quelques grèves importantes. C'est une vague de grèves avec des travailleurs très différents dans les cafés, les Starbucks, des acteurs, des actrices, des scénaristes. Mais je crois qu'il n'y a pas une connexion directe entre un secteur et l'autre. Et aussi, dans le secteur des autos, il y a le problème que la moitié des autos dans les États-Unis sont produits pour des usines, que des compagnies étrangères, des compagnies japonaises ou allemandes. Il produit la moitié de toutes les voitures des États-Unis. Et donc, il y a une compétence entre les compagnies américaines et les compagnies des origines étrangères. C'est possible que si la grève est complètement effective, si pour gagner, c'est qu'elle voudrait qu'elle pourrait avoir un impact sur les travailleurs qui n'ont pas. Qui ne sont pas syndicalisés, par exemple, dans les fabriques coréennes ou japonaises. Mm. Et on peut voir donc un mouvement pour organiser ces travailleurs. Mais ce n'est pas clair. Et ce n'est pas clair qu'il va avoir un impact sur des autres secteurs.
Ah ouais. Alors, moi. Non, parce qu'on a appris que 75 000 employeurs des Kaiser permanentes ont entamé la plus grande grève à des secteurs de soins.
Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est pas pour l'impact des autos, c'est pas pour l'impact des autres. C'est que tous les travailleurs dans les syndicats différents ont des contrats qui vont terminer, il est nécessaire de renouveler les contrats et donc nous avons ces grèves. Mais j'imagine que les infirmières, par exemple, dans un hôpital pour dire les autres vont à grève et ils gagnent. Mais il n'y a pas réellement l'idée pour moi, une connexion directe entre Si, et je suis d'accord que la grève des travailleurs des hôpitaux en Kaiser, en Californie, Oregon principalement, où il y a dizaines de milliers de travailleurs, c'est très important. Mais nous avons expérimenté comme 25 grandes grèves dans les hôpitaux récemment. C'est la même chose, c'est que le salaire n'est pas adéquat, mais spécialement dans les hôpitaux, c'est la question de la faute de travailleurs, que les compagnies n'ont pas employé travailleurs suffisants. Le COVID, la pandémie de COVID a décimé les hôpitaux. Ils ont perdu peut-être 10% ou plus de leurs travailleurs. Et donc, les travailleurs qui ont continué à travailler, ils font le travail double. Ils ont de travailler beaucoup plus fort. Et donc, il y a la pression sur les travailleurs et aussi sur sur le public. Dans le cas de Kaiser, j'ai parlé avec ma sœur. Ma sœur habite en Californie, en sud de Californie, proche à San Diego, Californie. Et elle m'a dit récemment, qu'elle et ses amis ont dit récemment que c'est très difficile d'avoir des appointments avec les docteurs, que c'est difficile.
D'avoir des rendez-vous avec les médecins, c'est très compliqué.
Absolument. Mm. Il est difficile de faire des rendez-vous avec l'hôpital et que le service n'est pas bon, qu'il y a beaucoup de problèmes. On a peut-être pour quelque chose, il est nécessaire d'attendre un mois, 6 mois, un an pour quelques différentes opérations ou différentes choses dans l'hôpital. Et donc, je crois qu'aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'appui de la public pour les travailleurs des hôpitaux, pour qu'il y a affecté aussi à la population en général.
Moi, je voudrais revenir, Dan, sur le syndicat United Auto Workers. Est-ce que tu peux nous dire qui est Sean Fain? Qu'est-ce qui semble très déterminé et pas du tout enclin à serrer la main des patrons? La stratégie qu'il veut mettre en place et est-ce que ce syndicat UAW est le seul syndicat qui existe dans l'industrie automobile?
Et je crois que je suis très très impressionné par Sean Fain. Je crois qu'il est une personne formidable, qu'il a travaillé. Il vient d'une famille de travailleurs des usines des autos. Il a travaillé pour 30 ans ou 25 ou 30 ans dans l'industrie. Il a travaillé pour le syndicat en beaucoup de positions dans le syndicat à différents niveaux de le syndicat. Et il est important de comprendre que la direction antérieure était très très conservateur. Et qu'elle était très corrompue. Ils avaient volé millions de dollars de le syndicat, de la direction intérieure. Et donc, il représente un changement complet. Il est une personne avec une formation chrétienne qui vient de l'église protestante évangélique. Il parle à les travailleurs dans la manière d'une personne religieuse que nous sommes choisis pour cette lutte que nous avons de lutte pour que nous avons la droite avec nous, c'est-à-dire la justice est avec nous. Nous avons de lutter parce qu'il est juste. Et il parle aussi d'une lutte de classe très fortement. Et il parle d'une lutte contre la classe milliardaire qu'il est nécessaire. Le pouvoir de la classe milliardaire qu'il est nécessaire et que c'est pas, il dit aussi que c'est une chose complètement unique dans le mouvement ouvrier dans les dernières 50 ou 35 ans qu'il parle d'une lutte de classe pour que nous sommes en lutte non seulement pour les travailleurs d'auto, non seulement mais pour toute la classe ouvrière et pour toute la société et pour les pauvres. C'est-à-dire que c'est une rhétorique qui vient d'une vision chrétienne de la justice. Je crois que c'est pas directement à beaucoup de les travailleurs d'auto, de les qui sont ou blancs ou noirs ou latino-américains ou des les arabes, parce qu'il y a aussi beaucoup des arabes dans quelques usines de l'industrie auto. Ils parlent dans une voie religieuse, mais de la justice. Et je crois qu'il a un impact très fort entre les travailleurs. Et dans les secteurs, c'est très commun dans beaucoup de la société américaine, beaucoup de régions des États-Unis, le sud, le Midwest, comme on dit, et l'ouest des États-Unis. Et je crois qu'il a une voix qui parle à beaucoup de personnes. La stratégie, c'est aussi unique, cette idée que nous allons graduellement étendre la grève. C'est très, très impressionnant. En général, on peut dire que le UAW, le syndicat des automotrices, c'est le seul syndicat. Il y a quelques, je sais qu'il y a quelques usines qui font des auto parts, qui font des choses pour les autos, mais qui sont organisés pour d'autres syndicats, par exemple pour le Teamster. Mais ce n'est pas important. C'est pas, l'industrie, basiquement, est organisée. Les très grandes compagnies sont organisées. Le problème, c'est que la moitié sont des usines non syndicalisées, principalement presque toutes des compagnies étrangères.
Alors, je voudrais citer un extrait d'une intervention de Sean Fain. Mais je sais que ce que nous gagnons à la table des négociations dépend du pouvoir que nous construisons sur nos lieux de travail. Il est temps d'utiliser ces pouvoirs.
Alors, Dan, on va faire une petite pause musicale. Ça va te permettre de souffler un petit peu et on te reprend dans 2 minutes.
êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de l'hebdo, mais aujourd'hui il est enregistré puisque nous sommes avec Dan Labotz qui nous parle depuis New York, et avec le décalage horaire c'était franchement pas possible le samedi matin, donc nous faisons ça aujourd'hui le jeudi 12 octobre. Alors je rappelle que Dan a sorti son dernier livre et donc son premier roman qui s'appelle Trotsky in Tijuana. Il n'est pas encore traduit en français, mais je pense que ça viendra. Et Dan est également enseignant, chauffeur routier, historien, journaliste, enfin il a plein de casquettes différentes, et il répond à nos questions sur l'ambiance aux États-Unis à l'heure actuelle.
Alors Dan, et pour qu'on puisse mieux comprendre, quel est l'état général de la situation du syndicalisme aux États-Unis, de la vie syndicale dans les entreprises, parce qu'on a assisté à beaucoup de luttes justement pour avoir le droit de se syndicaliser sur le lieu de travail.
Je crois que premièrement, il est important de comprendre que le niveau de syndicalisation a baissé graduellement dès les années 50, quand 35% de les travailleurs étaient organisés dans un syndicat dans l'industrie, dans tout le pays, tous les travailleurs, 35%. Aujourd'hui, dans le secteur privé, seulement 6% sont organisés. Et entre les travailleurs en total, seulement 10% sont organisés. C'est-à-dire que seulement 10% en syndicat, ou pour la représentation syndicale, la lutte pour le contrat, etc. Donc le syndicalisme a été très, très, très fragile. Et aussi, il était nécessaire de comprendre que la bureaucratie syndicale des États-Unis, les officiers de les syndicats à les niveaux plus hauts, ont été très conservateurs dans leur mentalité, c'est-à-dire, je ne parle pas de la politique, mais dans la mentalité de la possibilité de lutter. Et donc, les syndicats étaient pratiquement moribondes pour 50 ans. Il y a peu d'activités, peu de vivre dans les syndicats depuis les 310 les années 310. Je crois que aujourd'hui dans la vie syndicale, c'est généralement pas forte. C'est-à-dire dans les usines. Il y a quelques syndicats qui ont une présence des activismes dans les usines ou dans l'office ou dans le lieu de travail, qu'est-ce qu'il sait, mais ce n'est pas commun. Je crois que quelques des syndicats des travailleurs publics sont très actifs et des autres très bureaucratisés. Et c'est pour tout cela, pour toute cette expérience de 50 ans de des syndicats très fragiles et pas actifs, que c'est un important, c'est un intéressant, cet jalon, parce que c'est un jalon dans le mouvement ouvrier d'avoir ces grandes grèves, ces vagues de grèves, des scénaristes à travailleurs de l'auto, à les travailleurs des hôpitaux. Mais il est important aussi de comprendre que dans les États-Unis, nous n'avons pas l'expérience d'un mouvement syndical avec une conscience politique. C'est-à-dire, la bureaucratie syndicale, en général, est connectée avec le Parti démocrate de Joseph Biden, maintenant le président. Et en général, les syndicats, formellement, la direction de tous les syndicats, dit chaque élection, nous allons appuyer les candidats de le Parti démocrate. Mais beaucoup de les travailleurs, spécialement dans les travailleurs de la construction des bâtiments ou les travailleurs blancs dans quelques des industries comme les aciers. Ils sont très conservateurs et ils vont voter pour Trump. Et donc la classe ouvrière est divisée au-dedans, et l'expérience, c'est pas clair pour moi comment l'expérience de la grève, spécialement comment l'expérience d'un leader comme Sean Fain ou comme Drescher, la femme qui est le leader de les acteurs, qui continue en grève depuis comme 4 mois. Et il est un grand nombre, je crois 65 000 acteurs en grève toujours. Il n'est pas clair pour moi comme les travailleurs vont en réactionner de cette expérience d'avoir une direction qui dit nous sommes dans une lutte de classe. Qu'est-ce que va à dire les travailleurs? Comment est-ce que les travailleurs vont avoir donc l'expérience politique? Qui va faire une lutte de classe pour lui? Est-ce qu'ils vont penser que Trump peut les aider avec la lutte de classe? Ou est-ce qu'ils vont penser que Biden? Parce que Trump parle, il a dit quand il était président, je vais créer une partie des travailleurs. Mmh. Et il y a une base entre les travailleurs blancs. Et Biden n'est pas une figure inspirationnelle. Il est intéressant que Biden fait à la. Il était dans le picket, comme on dit en français.
Picket des grèves.
Oui, il est allé sur les piquets de grève Biden.
La grève avec les travailleurs automotrices. Elle était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président a été en grève avec les travailleurs. C'est une chose sans précédent, c'est complètement unique. Je crois qu'il a gagné un certain appui pour le président et le président a donné son appui à il a dit, je suis le meilleur président pour les travailleurs en toute l'histoire des États-Unis. Et certainement, il a passé des lois, il a fait quelque chose pour les travailleurs. En même temps, elle et le Parti démocrate ont fait impossible la grève de les travailleurs des chemins de fer, non? Et donc il y a une contradiction dans sa politique. Mais en ce moment, je crois que les travailleurs vont penser que Biden les appuie. Mais c'est, pour moi, c'est une des questions principales. Qu'est-ce que la relation entre la militance syndicale et la conscience politique? Je crois qu'il n'y a pas une ligne droite, il n'y a pas une ligne directe de la conscience ou le militant syndical et la conscience politique. Et il y a beaucoup de forces de la droite qui a une influence sur les travailleurs, spécialement sur les travailleurs blancs, et quelques des travailleurs latino-américains. En général, non. Les travailleurs noirs sont firmement avec le Parti démocrate. Et il n'y a pas un parti socialiste, il n'y a pas un parti de gauche d'importance. C'est intéressant que Cornel West, un intellectuel noir, une théologienne, une personne qui a écrit beaucoup de livres sur les questions de la justice dans la société américaine ou dans le monde, et qui parle et toujours à parler à côté de les pauvres, des travailleurs, de les opprimés pour la race ou pour le genre, qui connaît l'Ouest maintenant, dit qu'il va être candidat pour la présidence. Une chose que la stratégie qu'il a, et c'est difficile, il a dit qu'il va être un candidat indépendant complètement, sans parti. Je ne vois pas comment il peut le faire, mais c'est une chose intéressante. Il va avoir appui de quelques personnes noires et de quelques progressistes.
Dans cette campagne préélectorale, puisque les élections doivent se dérouler en 2024, quelle est l'ambiance justement à partir, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais bon, on voit les deux têtes de liste, Biden et Trump, les autres responsables politiques s'intéressent-ils également à ce mouvement de grève? Sont-ils allés imiter Biden par exemple, ou Trump selon leur, qu'ils soient démocrates ou républicain? Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui se mettent en place, qui sont ni démocrates ni républicaines, mais qui s'affirment comme étant une gauche, étant de gauche, d'une gauche sociale, par exemple? Tu peux nous expliquer un petit peu cette ambiance actuellement?
Oui, c'est un bon point. Je crois qu'il y a, oui, il est vrai qu'il y a une gauche sociale et quelques Et je suis sûr, je sais que la gauche sociale appuie à les grévistes, appuie à les travailleurs en général. Et de temps en temps, il y a personne de la gauche sociale qui rejoint la grève pour quelques heures, pour un jour. Mais il n'est pas réellement une force importante. Il est vrai que la gauche petite des États-Unis a moins de 100 000 personnes et un énorme pays de 30 millions de personnes que il y a des personnes de la gauche qui vont à la grève, qui participent dans la grève, qui font des relations. Il y a quelques personnes de la gauche qui sont actives dans les syndicats. Et donc, il y a une connexion, une très petite et très fragile connexion entre la gauche et les travailleurs. Et donc, en général, réellement, pour la question politique, il y a la question de Trump et Biden. Mais il y a des autres officiels de la Parti démocrate, généralement local, ou dans les États ou dans les villes, qui vont à les grèves, qui appuient les travailleurs, ou fait qui donnent quelques mots d'appui à les travailleurs, ou qui dit qu'ils comprennent la situation, qu'ils sont sympathiques avec les travailleurs. Mais en général, je crois que pour la majorité de la société, la question syndicale, dans la mentalité de la population en général, la question syndicale est séparée de la question politique. Ce n'est pas comme en France, dont historiquement, il était très clair la relation entre les deux choses. Mais ici, et spécialement, je crois, depuis Trump, avec la polarisation de la société, il y a peu connexion dans la mentalité de la population en général. Je crois que ça les donne une idée.
Oui, parce que c'est vrai que nous, les questions qu'on te pose, en fait, on les pose à travers notre propre grille de lecture de la vie politique que nous connaissons en France. Et quelquefois, ça nous laisse un petit peu interloqués quand tu nous donnes ce genre de réponse. On a tendance à dire, ah bon, alors c'est comme ça, ça paraît un peu naïf, mais effectivement, les partis de gauche, les syndicats en France, c'est dans le même coin. J'allais dire. Alors que là, c'est assez. Les relations sont assez différentes. Avant de continuer, on va rester un petit peu sur la vie politique parce que l'une des dernières turbulences qu'il y a eu date du mardi 3 octobre avec la destitution de Kevin McCarthy. Alors je sais que depuis les choses ont un petit peu évolué. Donc je rappelle que Kevin McCarthy était président de la Chambre des représentants. Alors, quelles sont les conséquences sur la vie politique et sur la vie de 2 millions d'Américains, finalement?
C'est le problème du Parti républicain, parce que McCarthy était la personne principale, leader du Parti républicain, formellement. Il indique les grands problèmes au-dedans du Parti républicain, parce qu'il est divisé entre les conservateurs traditionnels, qui sont réactionnaires, mais en termes que nous connaissons bon, non, de l'économie, d'écouter le budget social, etc., de baisser les impôts de les riches. Mais il y a la nouvelle droite, la nouvelle droite de le Parti républicain qui a été formée dans les dernières 8 ans, pour Trump. Et Trump a, réellement, c'est Trump qui a le contrôle de le Parti républicain. Il a la fierté, il a la loyauté de la grande majorité des républicains. C'est un problème pour le Congrès des États-Unis parce que dans la Chambre basse, les républicains ont la majorité et maintenant ils ne peuvent pas fonctionner. Et par exemple, il y a beaucoup de discussions dans la télévision, dans les journaux, que qui va passer. Il y a maintenant, il y a une guerre entre Israël et contre, réellement contre le peuple de Gaza. Et il n'y a pas un leader dans la chambre basse, et donc il est impossible d'avoir une politique, de passer des budgets, il est impossible de fonctionner. Par la majorité de la population des États-Unis, beaucoup des sondages récents indiquent que ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. La public en général a un sentiment d'être très aliéné, très loin de le gouvernement, que le gouvernement, il n'y a pas confiance. La politique des conspirations, que la société est contrôlée par conspiration, qui est venue avec Trump et depuis avec la pandémie de COVID, et vraiment ça a corrompu complètement confiance dans le gouvernement, la possibilité d'avoir des discussions basées dans les faits. Les faits ne vaut pas à ce moment. C'est la dominance, non de les faits, mais des images, des figures charismatiques comme Trump et des petits Trump en autres États ou villes. Et le mouvement réellement néofasciste dans toute la société, il y a personnes de la droite qui vont à les conseils de les villes locales et causent des énormes problèmes, comment disons, un riot.
Les révoltes, les émeutes.
Les émeutes, oui. Et ils vont, par exemple, à la conseil de la ville, à la conseil de la librairie, à la conseil de les écoles. Ils demandent que de retirer des livres sur la LGBT, de remover, de quitter les livres sur les Noirs, de quitter les livres sur... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements à tout niveau de la société de la droite qui lutte à un niveau très local pour contrôler des différentes institutions. Cette nuit dans la télévision publique, il y avait une discussion de la difficulté en avoir les élections parce que maintenant, les officiers de l'élection, beaucoup qui sont volontaires, ne veulent pas travailler parce qu'ils sont menacés de menaces de être assassinés ou attaqués pour la droite. Oui. Et donc, c'est une crise profonde de la vie politique qui a excavé la société d'en bas.
Et bien, le point de départ, ça a été aussi la révision de la loi contre le droit à l'IVG. Ça a continué aussi de cette manière-là. Enfin, ça a été quand même un sacré coup de tonnerre quand il y a eu cette révision de la loi.
La loi de quoi ?
La loi contre le droit à l'avortement. Contre le droit à l'intervention volontaire de grossesse, ça a été vraiment aussi un gros coup de tonnerre qui a rajouté au reste.
C'est une des choses principales de cette lutte. La droite avec Trump a gagné contrôle de la Cour suprême de la nation. Ils ont changé la loi d'avortement, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé à un niveau fédéral. Et donc, beaucoup des États, immédiatement, ont passé des lois contre l'avortement. Et je crois qu'une tiers partie de les États, maintenant, ont pratiquement fait l'avortement impossible. C'est impressionnant, la lutte des femmes qui organise pour à aider à les femmes qui ont besoin d'un avortement, à les aider à voyager à autre ville, à autre état où l'avortement est légal. Ils organisent la distribution de les pastilles pour l'avortement parce qu'il y a un mouvement maintenant pour éliminer les pastilles.
Les médicaments qui permettent les pilules abortives, voilà, j'y arrivais.
Merci pour m'aider. Merci. Ouais. C'est le médecin qui a aidé à l'avortement. Tu as raison. C'est
de... ouais, on a vu ce mouvement partir comme ça depuis la reprise en main des États sur la loi contre l'avortement. Et en même temps, on a vu, comme ce que tu as dit juste avant, ce mouvement aussi contre des livres, retirer des livres des bibliothèques scolaires, empêcher des leçons ou des déclarations sur des sujets qui étaient imaginés comme étant anti, je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais enfin bon, il y a une espèce de moralisme, de pudibonderie qui est quand même assez effrayant.
Oui, oui, et c'est très dangereux parce qu'il va éliminer la droite à parler, la droite à écrire, de publier. Et aussi, il y a autre chose importante, c'est la droite veut avoir un nettoyage de la liste des électeurs pour éliminer. Il dit il voudrait éliminer les étudiants, les noirs, les vieux, parce que pour le Parti républicain, c'est important que le numéro des électeurs est petit, parce qu'ils n'ont pas un grand appui. Et pour le Parti démocrate, au contraire, il est nécessaire d'avoir le vote de tous les Noirs, de tous les étudiants, de tous les syndicats qui formellement appuient. Et donc, c'est autre chose que ça va être un grand problème dans l'élection qui vient en novembre de l'année prochaine.
Dan, on va refaire une pause musicale et puis on te reprend tout de suite après. À tout de suite.
We need hope for a change.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'hebdo aujourd'hui enregistré parce que nous sommes avec Dan Labotz qui est aux États-Unis et que donc avec le décalage horaire, eh bien c'était préférable d'enregistrer aujourd'hui, jeudi 12 octobre. Et je rappelle que Dan est donc auteur de son premier roman qui s'intitule Trotsky in Tijuana. Il était également donc enseignant, chauffeur routier, historien et journaliste. Il répond à nos questions sur la situation aux États-Unis à l'heure actuelle.
Alors, je pense qu'on va quitter un petit peu la situation des grèves, des mobilisations sociales aux États-Unis pour te poser une question. Quelle l'attitude face à la situation en Palestine? Et Lord vient de dire bien que c'est les États-Unis, l'Angleterre.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France ont signé un message de soutien au gouvernement israélien. Je ne sais pas comment ça a été reçu parmi les Américains. Comment toi tu as vécu ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti?
Oui, premièrement, il est nécessaire de dire que la situation c'est une horreur, non? Que c'est horrible. La situation en général, la position de politique. Je devrais dire aussi que dans les États-Unis, avant de ces événements, un sondage récent indique que pour la première fois, avant de ces événements récents, plus de la majorité des Américains avaient plus de sympathie avec les Palestiniens qu'avec Israël. Et ça est très intéressant et très important. Mais maintenant, j'imagine que ça va changer. Je crois que la nature de l'attaque pour part de Hamas, avec des massacres des civiliens, des mères, des enfants, etc., que ça va avoir un terrible impact dans la conscience de la de toute la société, parce que la majorité connaît très peu sur la question de Palestine. En général, les Américains n'ont pas une grande compréhension géographique ou historique, mais dans les États-Unis, il y a beaucoup de Juifs. La population juive est divisée entre partie qui est inconditionnellement appuyé à Israël et des autres, principalement plus jeunes, qui ont sympathie ou appui à Palestine, à la palestinienne. Et il y a une grande population ici, des Arabes aussi, en Michigan, en New Jersey. C'est important de connaître qu'il y a des populations actives. Au niveau politique, Biden immédiatement a dit « Nous allons appuyer à Israël, nous sommes avec Israël, nous avons continué, nous avons aidé. » Il a envoyé un aircraft carrier.
Il a fait un énorme envoi par avion.
Oui, il a envoyé autre matériel de guerre à Israël. Il voudrait augmenter le budget militaire pour Israël. Israël qui reçoit billions, milliards de dollars des États-Unis chaque an pour décennies. Il a dit immédiatement, nous sommes avec Israël. Et il est parti républicain aussi. Il est presque impossible d'encontrer un politicien américaine qui va dire autre chose. Il y a un groupe de la gauche, Alexandre Ocasio-Cortez, par exemple, et les autres de ce qui s'appelle le Squad, c'est-à-dire les 8 ou 10 congressistes de gauche dans le Parti démocrate, ont plus de sympathie avec les Palestiniennes et qui sont critiques d'Israël. Mais il est difficile pour lui de parler. Il a été fait plus difficile pour les activités de la gauche. Nous avons des manifestations de gauche où les idées de les Palestiniennes très nationalistes qui voudraient expulser tous les Juifs du
Moyen-Orient.
Et ils pratiquement dit que nous avons d'envoyer tous les Juifs à la mer, non, de les expulser de le pays. Ces sentiments antisémites ont en fait plus difficile pour les représentants gauchistes de parler de cette situation. parce qu'ils sont accusés d'être antisémites. C'est très commun dans les États-Unis qu'il y ait personne qui critique à Israël et accusé d'être antisémite.
La situation en France est la même.
Ouais, c'est assez généralisé parce que en fait, on peut très bien condamner ce qu'a fait le Hamas et pour autant soutenir les Palestiniens sans pour autant être antisémite. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué que on n'est pas dans l'art de la nuance à l'heure actuelle. C'est très très binaire. C'est où t'es avec moi ou t'es contre moi. Et donc je pense que effectivement le débat qu'il y a aux États-Unis, on le partage aussi particulièrement en France, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux là.
Aujourd'hui, il devait avoir lieu des manifestations de soutien au peuple palestinien et manifestations qui ont été interdites.
Ici, il y a beaucoup de manifestations d'appui à les Palestiniennes en différentes villes des États-Unis. Quelqu'un avec 12 000 personnes, autre avec 100 personnes dans les villes plus petites, mais ils sont contaminés avec un antisémitisme dans la gauche. Mais il est important de savoir qu'il y a des groupes juifs et palestiniens de la gauche, socialistes, juifs, socialistes d'origine palestinienne qui travaillent
ensemble.
Gentiment, ensemble, qui travaillent ensemble pour lutter pour la justice pour les Palestiniens. Mais aussi, de ma point de vue personnel, je crois que c'est très important de dire que nous sommes à côté des Palestiniens, mais que pas vous dire que nous sommes aux côtés de Hamas. Hamas est un pouvoir réactionnaire de la droite religieuse. Vraiment, politiquement, Hamas a beaucoup en commun avec Netanyahu ou Trump, c'est-à-dire ou les évangéliques de Trump. C'est-à-dire que nous sommes avec les Palestiniens, avec le peuple palestinien. Il est nécessaire de dire qu'il est nécessaire de terminer cette guerre immédiatement, que tous les Israéliens sorte de West Bank, de la banque de l'Ouest.
De Gaza.
Il est nécessaire aussi de donner des aides humanitaires, de terminer avec le siège de Gaza. Tout ça a de changer. Il y a un groupe qui lutte pour ça. Il est intéressant aussi que la couverture dans les médias ici, dans les moyens de communication, a été plus balancée que dans le passé, je crois. Je vois toutes les différentes stations de télévision, des représentantes d'une voix des Palestiniennes, en général, voix des Palestiniennes. De le West Bank, de l'administration de Fatah, des origines, c'est-à-dire de la voie séculaire démocratique de la Palestinienne. Et je crois que ça a été très important, spécialement dans la Democracy Now, un programme que peut-être quelques de votre public écoute. La Democracy Now, c'est très bien. Sur cette question, mais aussi CNN et des autres ont invité à personnes qui peuvent parler du point de vue des Palestiniens séculaires démocratiques.
On va arrêter là parce que notre émission est maintenant terminée. Merci d'avoir terminé sur cette question-là. Vraiment, on te remercie d'y avoir participé et d'avoir participé à notre émission qui, je le rappelle, sera rediffusée mercredi de 10h à 11h. Donc aujourd'hui, nous étions avec Dan Labotz pour parler de la situation aux États-Unis dans cette période de turbulence intense. Il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois, Dan, de remercier Lucien pour la technique. Et ça n'a pas été... ça a été assez sportif aujourd'hui, mais on est arrivé. Dan, à très bientôt pour une prochaine émission peut-être. Merci beaucoup à Julia.
Merci Laure, merci Dan et merci Lucien.
Et à la semaine prochaine. Au revoir Dan.
Au revoir.